RFI, grand reportage.
Je souhaite servir mon pays et devenir médecin de science et de conscience. Et aller où aucun autre médecin ne veut aller, où personne n'apporte de l'aide pour sauver des vies.
Le magazine de la rédaction vous emmène à Cuba, où plus de 9000 médecins ont été rapatriés l'année dernière. Des médecins en mission à l'étranger et qui représentaient la première entrée de devises dans le pays. Au Brésil d'abord, puis en Équateur et en Bolivie, le rapatriement des médecins cubains apparaît comme une illustration des changements idéologiques à l'œuvre en Amérique latine. Cuba, la diplomatie médicale sur la défensive, c'est un grand reportage de Domiti Piron.
Que viva Cuba!
Viva!
Viva por siempre la revolution cubana!
Les haut-parleurs du hall de l'aéroport de La Havane crachent une musique festive. Les drapeaux cubains et les images du Che ont été sortis pour l'occasion. Le retour forcé des médecins cubains de Bolivie est une véritable fête pour cacher l'échec de cette dernière mission. La crise politique en Bolivie et les protestations après les élections entachées de fraude puis le départ d'Evo Morales en novembre dernier ont eu raison de la coopération médicale cubaine dans le pays. Les médecins sur place ont été accusés par le gouvernement intérimaire d'encourager et soutenir les protestations en faveur d'Evo Morales. Tous ont revêtu leur blouse blanche à la sortie de l'avion, comme Marlene Mendez Vega. Elle est infirmière de la mission Milagro, Miracle, lancée en 2004 et qui a soigné des millions de latino-américains de la cataracte. Ces accusations, elle les nie en bloc.
Nous n'avons rien à voir avec la politique. À chaque fois que nous partions en mission, notre commandant nous disait que nous ne partions pas faire de la politique. Nous partions pour aider les peuples qui en ont besoin. Nous n'avons rien à voir avec tout cela. Tout a été inventé. C'est un mensonge de l'impérialisme.
Ce sont les ministres de la Santé et des Affaires étrangères en personne qui accueillent ces premiers médecins rapatriés de Bolivie. Après une cérémonie bien orchestrée, quelques-uns sont autorisés à parler à la presse nationale et étrangère, invités pour l'occasion. Le timide Marlon Morales est l'un d'eux. Il était affecté dans l'hôpital de Yacuiba, au sud de la Bolivie, depuis exactement un an et sept jours, dit-il spontanément.
Sans notre présence là-bas, le peuple n'est plus protégé. À l'hôpital où nous étions, il n'y a plus personne. La salle de thérapie intensive est fermée. Il n'y a plus de médecins ni d'infirmières en thérapie intensive. Les chirurgiens aussi sont partis. Et je pense qu'ils ressentent déjà notre absence puisque nous avons dû rentrer dans notre patrie.
Le gouvernement cubain n'a pas tardé à rapatrier ses 725 professionnels de santé présents en Bolivie, alors en pleine crise politique. Le retour s'est fait dans la précipitation, mais les Cubains n'ont sûrement pas oublié de revenir les bras chargés de bagages. Des dizaines de téléviseurs, des valises pleines de vêtements, voire de nourriture, des ventilateurs et autres climatiseurs attendent désormais dans la salle de déchargement des bagages de l'aéroport. Les missions médicales à l'étranger sont une source de revenus non négligeable pour les familles cubaines qui ont alors accès à des produits importés. Yvonne Rodriguez Garcia reçoit dans sa belle et lumineuse maison du quartier du Vedado à La Havane. Contrairement à de nombreux foyers cubains, la cuisine est équipée d'électroménagers modernes et d'un climatiseur flambant neuf.
En plus d'améliorer la condition économique du médecin qui gagne plus d'argent en mission, la fonction fondamentale de la coopération, c'est de contribuer à l'économie de notre pays, de notre peuple. Et moi, j'en suis fière.
En effet, les missions médicales ont rapporté plus de 6 milliards de dollars à Cuba en 2018. Première entrée de devises dans le pays, l'exportation des médecins est cependant critiquée. Considéré par l'ONG Cuban Prisoners Defenders avec une plainte portée aux Nations Unies comme une forme d'esclavage moderne. Car le salaire du médecin dans le pays hôte est payé à l'État cubain, qui selon des estimations en reverse en moyenne 30% à son collaborateur. 30% d'un salaire à l'étranger qui sont toujours plus que le salaire moyen d'un médecin à Cuba, équivalent à 60 dollars. Yvonne Rodriguez Garcia.
Ceux qui critiquent sont ceux qui ne se sentent pas concernés par Cuba, ni par leur propre peuple. Ils ne s'intéressent qu'à leur intérêt et non pas à la macroéconomie du pays.
Yvonne a un regard confiant et sincère. Calmement, la généraliste, qui travaille également à la direction de la coopération médicale, démonte un à un les arguments critiques qui ont pu être émis contre ces brigades cubaines. Des critiques qui émanent généralement des médecins qui ont quitté leur mission à l'étranger pour s'exiler. Au Brésil, après l'arrêt de la coopération médicale voulue par le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, des 8000 professionnels de santé présents, 2500 sont restés sur place. Cuba les considère aujourd'hui comme des déserteurs. Yvonne, qui était également au Brésil jusqu'à l'année dernière, minimise les faits.
Quand on regarde le grand nombre de médecins, 130 000 professionnels de santé partis en mission à l'étranger pour revenir ensuite à Cuba. Car la grande majorité ne reste pas à l'étranger. C'est une minorité qui ne revient pas. La migration est un phénomène naturel. On ne peut pas généraliser le mouvement de migration économique à tout le corps médical cubain. Nous sommes une armée de blouses blanches formée sur les principes de la révolution. Nous défendons Cuba et nous défendons le système de santé publique ici comme à l'extérieur.
Le retour en un an de plus de 9000 médecins cubains est un manque à gagner pour le pays. Difficile à estimer, il n'empêche que la droitisation du continent américain n'arrange pas les affaires cubaines. Et à chaque fois, que ce soit au Brésil, au Salvador, en Équateur ou en Bolivie, l'administration de Donald Trump s'est publiquement réjouie de la fin de la coopération médicale avec Cuba, ce que regrette Yvonne.
C'est un instrument qu'utilisent la droite et surtout les États-Unis pour manipuler ces pays où la collaboration médicale cubaine était présente. C'est leur arme pour essayer, je dis bien essayer car ils n'ont pas réussi, de dévaloriser notre travail scientifique, technique et surtout humaniste et solidaire en tant que médecin. Ils utilisent cet argument à des fins politiques pour discréditer la révolution cubaine.
Y te mando el folleto.
Sí, gracias.
Bueno, buena misión en Argelia.
Gracias, mi amor.
À peine rentrée de Bolivie, Yvonne s'apprête à repartir en mission en Algérie, un pays encore considéré comme ami et frère de Cuba. Un pays comme 65 autres où 29 000 professionnels de santé cubains sont présents. Martha, elle, restera pour l'instant à La Havane, ce qu'elle semble regretter. Dans sa maison vétuste, au mur décrépit, à Baracoa, dans la banlieue de la capitale cubaine, trône une figurine de Ho-Chun, une vénération de la religion afro-cubaine. Martha Álvarez Sáez, à la peau d'ébène, porte avec fierté la blouse blanche. Pour l'occasion, elle a également sorti ses diplômes de l'université et de fin de mission. Martha a commencé au Venezuela dans les années 90, puis le Nigeria, l'Angola et dernièrement l'Équateur. La coopération médicale entre Quito et La Havane avait démarré en 2013 d'un accord entre Raúl Castro et Rafael Correa. Cette coopération avec Cuba a pris fin avec l'arrivée de la droite de Lénine Moreno au pouvoir. Pour l'épidémiologiste Martha Álvarez Sáez, la politique ne devrait pas entrer en considération lorsqu'il s'agit de la santé de la population. Depuis un an et demi, elle exerçait à l'hôpital de Guayaquil dans le pays sud-américain.
Là-bas, je prenais en charge beaucoup de patients atteints du tétanos, une maladie éradiquée à Cuba. Il y a encore le paludisme, la dengue, avec de nombreux cas graves de dengue et d'autres maladies transmissibles comme le VIH, surtout de transmission verticale d'enfants qui naissent infectés. Je suis épidémiologiste, donc je faisais de la prévention. J'étais en charge de la vigilance des épidémies dans la région, qui sont les principales causes de mortalité du pays.
De retour au pays, Martha reprend son poste à l'hôpital de Baracoa. Son salaire passe de 700 à 60 dollars, mais les médecins cubains aiment à rappeler qu'ils ne travaillent pas pour l'argent et qu'à Cuba, ils ne payent pas de loyer et qu'ils bénéficient de nombreux avantages sociaux. Ce jour-là, elle retourne à l'université de Rilon, où elle a obtenu son diplôme il y a 40 ans pour un échange avec les étudiants futurs médecins. Selon les détracteurs de la coopération médicale cubaine, certains médecins ne sont pas de véritables professionnels et leur formation est remise en question. En Uruguay, par exemple, 60 ophtalmologues ont opéré durant 12 ans 90 000 patients de la cataracte. Ces dernières années, 9 médecins cubains ont déserté leur mission et pour rester en Uruguay et être intégrés au système de santé publique du pays, ils ont dû repasser un examen. 6 d'entre eux ont échoué. Devant les étudiants qui portent également déjà tous la blouse blanche, Marta Alvarez-Sés ne doute pas de ses connaissances et défend sa formation.
En Équateur, tous les médecins étrangers qui arrivent doivent passer un examen de capacité, que j'aurais dû passer prochainement. Mais ce n'est rien, il n'y a pas de quoi avoir peur. Je ne pense pas qu'ils m'auraient demandé quoi que ce soit auquel je n'aurais pas été capable de répondre.
Et l'argument de la solidarité internationale des médecins cubains revient en permanence comme un bouclier imparable à la critique. Marta Alvarez-Sés.
L'important de cet échange avec les étudiants, c'est qu'ils se projettent sur nous, parce qu'ils sont la continuité de notre héritage et des principes de notre révolution. L'un des piliers de notre révolution, c'est l'internationalisme prolétarien. Et les étudiants doivent prendre conscience qu'ils doivent aider leur pays, mais aussi aider d'autres peuples qui sont plus dans le besoin que nous.
Girón est l'une des 12 facultés de médecine de La Havane. Chaque année, Cuba forme gratuitement des milliers de jeunes médecins dans cet ancien couvent aux colonnes et escaliers de marbre et au patio verdoyant. La professeure de physiologie, Adina Pérez.
Cette faculté est la première école de médecine fondée par la Révolution en 1962 et sa fonction première a été la formation d'un grand nombre de médecins pour compenser la sortie de tous ceux qui ont fui la Révolution. Ça a été une fuite massive des cerveaux. Et depuis, dans ces couloirs sont passés plus de 80 000 étudiants de plus de 91 pays.
Cette médecin de toute petite taille, perchée sur des hauts talons et très apprêtée, était il y a 10 ans parmi les décombres, les victimes et les morts en Haïti après le tremblement de terre. Une première mission qui l'a marquée à vie, mais qui a, dit-elle, enrichi sa vocation. Cette vocation, c'est ce qu'elle souhaite transmettre aujourd'hui à ses étudiants. Ici, les études sont très encadrées. Adina en charge de suivre personnellement 35 élèves durant 6 ans. Cuba, malgré les critiques, attire encore chaque année des milliers d'étudiants venus d'autres pays, comme ce jeune Français. Paul Hardy, 21 ans, a quitté la Martinique pour Cuba, mais il sait que le diplôme qu'il obtiendra, moyennant plus de 50 000 dollars au total pour 6 ans d'études, ne sera pas reconnu partout dans le monde.
Alors il est reconnu dans de nombreux pays, je crois que c'est 120 pays. Par contre, il n'est pas du tout reconnu en France. En France, c'est la croix et la bannière pour entrer. Bien que j'ai appris qu'en Guyane française, ils sont en train de faire des... Parce qu'il y a tellement, peu de médecins en Guyane française qu'ils sont en train de faire des, je crois, un partenariat pour faire venir les médecins cubains. Mais ça donne de l'espoir, en fait, de pouvoir peut-être un jour rentrer. Sinon, bah, je serai obligé d'aller dans un autre pays.
Qu'est-ce que ça veut dire, selon toi, que finalement, la médecine cubaine, elle n'est pas si reconnue que ça?
Pour moi, c'est plus de la politique. Après, les faits sont là, dans beaucoup de pays d'Afrique, beaucoup de pays d'Amérique du Sud, ils sont largués dans les coins les plus horribles. Moi, c'est un type de médecine qui me plaît. Une médecine plus de terrain et plus technique. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas tous les appareils, parce qu'à Cuba, il n'y a pas telle technologie ni le dernier cri. Mais ils vous apprennent avec le basique, donc ça veut dire avec ce qui vient à pouvoir venir en aide.
En général, on avoue ici que l'accès à Internet et à certains équipements difficulte l'apprentissage de la médecine à Cuba. Mais dès la première année, les étudiants sont envoyés à l'hôpital avec un tuteur pour observer et apprendre une médecine très pratique. Rasé de près et le visage carré, Adrián Torre marche le menton en l'air et a dans son regard quelque chose de très assuré. Ce jeune homme avait choisi la philosophie. Après 4 ans d'études, il a décidé de se réorienter. Et il est aussi membre de la FEU, la très officielle Fédération étudiante universitaire, une affiliation qui aide parfois à l'obtention d'un diplôme. Avec aplomb, Adrián, son école, il la défend.
Bien sûr, vous êtes journaliste et parfois les journalistes transforment les informations à leur convenance. Mais moi qui ai eu l'opportunité de voyager en Europe et en Amérique, je me suis rendu compte que l'enseignement et le système de santé cubain sont bons. Bien sûr, il y a des différences entre tous ces systèmes. Par exemple, aux États-Unis, il faut avoir fait un cursus scientifique pour pouvoir faire médecine. Et il y a aussi un nombre limité de places pour les études de médecine.
Et l'étudiant défend également son modèle cubain.
Les médecins cubains, d'abord.
Ici, nous avons des médecins cubains dans chaque municipalité. Dans chaque localité, il y a un médecin de famille avec un cabinet de consultation. L'offre de médecins est importante. Et notre système de santé se focalise sur la prévention de la maladie. Quand ailleurs, dans d'autres pays, le médecin attend que la maladie se développe, car dans ce cas, les thérapies sont plus longues et ça permet de toucher l'argent de l'assurance. Mais à Cuba, nous n'avons pas les moyens de le faire, donc les thérapies se concentrent sur la prévention pour éviter que la maladie se développe.
Cet étudiant visiblement très politisé défend son modèle, mais le système de santé cubain se détériore, les lits comme les chaises roulantes manquent dans les hôpitaux, les installations et les équipements sont vieillissants et en mauvais état et les conditions d'hygiène bien souvent regrettables. Certes, il y a des médecins, 7,5 pour 1000 habitants, c'est l'un des taux les plus élevés au monde, mais il y a rarement de médicaments. Un fait que les Cubains expliquent par le blocus américain. Cuba affiche son taux de mortalité infantile comme le plus bas au monde et un des meilleurs taux en matière de prévalence du VIH. C'est également une médecine de pointe qu'a été capable d'offrir Cuba à des personnalités comme l'ex-dirigeant vénézuélien décédé depuis Hugo Chavez, le footballeur Diego Maradona ou encore actuellement la fille de la vice-présidente argentine Cristina Kirchner. Et cette renommée est connue des Caraïbes au Vietnam, de la Palestine au Zimbabwe en passant par la Côte d'Ivoire. De ces pays, comme de chaque pays d'Amérique latine, viennent les étudiants de l'ELAM, l'école latino-américaine de médecine. Fondée il y a 20 ans, à la suite de catastrophes naturelles en Amérique centrale, l'ELAM s'enorgueillit d'avoir formé déjà 29 000 médecins de plus de 90 pays du monde. Cyrielle Betibanga a quitté la Centrafrique pour Cuba il y a 3 ans. Après une première année d'études d'espagnol, Cyrielle est dans sa deuxième année de médecine.
Mes parents n'ont pas assez d'argent pour pouvoir payer mes études de médecine au pays parce que c'est vraiment cher. Et en plus de ça, ça me permet aussi d'aider mon prochain. Voilà la raison pour laquelle j'ai choisi de faire médecine ici à Cuba. En plus de ça, mon papa m'a dit, dans le monde entier, Cuba fait partie de l'un des meilleurs pays qui forment en médecine.
Ici, c'est donc une autre forme de diplomatie médicale qui s'applique. On forme gratuitement des jeunes du monde entier sur cette ancienne base de la marine cubaine. L'uniforme vert olive a été remplacé il y a 20 ans par la blouse blanche des étudiants en médecine. Sur ce campus en bord de mer à quelques kilomètres à l'ouest de la Havane, on compte plus de 1000 étudiants par promotion. Le contingent étranger le plus important vient de Colombie. Après les accords de paix entre la guérilla des FARC et le gouvernement colombien signé à la Havane, Cuba a ouvert de nouvelles bourses aux étudiants colombiens. Sans cela, Rosa Emilia Fernandez n'aurait pas pu réaliser son rêve de devenir médecin.
En Colombie, ce n'est pas impossible, mais les possibilités sont réduites, dues aux privatisations des études supérieures.
En la escuela superior, en las universidades.
Des médecins disposés à travailler où l'on a besoin d'eux dans les coins les plus reculés du monde, où d'autres ne veulent pas aller. Les phrases du discours d'inauguration de Fidel Castro s'affichent sur les murs du campus aux imposants bâtiments bleus et blancs. Et ces principes, les étudiants comme Rosa les intègrent rapidement.
Je souhaite servir mon pays et accomplir la mission de cette école, qui est de devenir médecin de science et de conscience. Et aller où aucun autre médecin ne veut aller, où personne n'apporte de l'aide pour sauver des vies.
Antonia se moque de ma réaction en voyant le cadavre en décomposition depuis plusieurs mois sur lequel elle étudie son cours d'anatomie. Cette étudiante de 36 ans est une ex-combattante de la guérilla des FARC. Ici, dit-elle, comme c'est son cas, de nombreux étudiants sont des militants d'un parti ou d'un mouvement progressiste. En plus de la médecine, les LAM formeraient donc aussi des militants.
Cuba étant un pays socialiste, cela nous permet en tant qu'étudiants en médecine d'avoir une responsabilité et de nous former aussi comme leaders et représentants politiques de nos organisations respectives dans nos pays.
Pour les médecins et professeurs, cette école est une fierté. Alina Turupiti enseigne à Antonia et à un petit groupe de première année les différentes parties du corps autour de ce même cadavre. Et quand on lui demande si le contexte actuel en Amérique latine et les critiques autour de la coopération médicale cubaine pourraient avoir des répercussions sur cette école, elle n'a pas de doute et a confiance en ses étudiants.
Quand ils sortent d'ici, ils sont disposés à coopérer parce qu'ils sont formés dans ce même esprit de solidarité. Et nous, les médecins cubains, c'est pareil. Et nous avons apporté notre aide médicale partout dans le monde.
Cuba, la diplomatie médicale sur la défensive, un grand reportage de Domitille Piron Réalisation Eva Piedel.